Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton-Corentin Mansoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien?
Ben, ça va.
On va parler de l'Union européenne. Un mois après les élections européennes, se tenait hier un sommet à Bruxelles pour décider du futur de la Commission. En effet, les dirigeants des États membres doivent se mettre d'accord sur les candidats qu'ils souhaitent nommer au poste clé de l'Union. Parmi les candidats en lice pour présider la Commission, l'Allemand Manfred Weber, le Néerlandais Frans Timmermans, la Danoise Margrethe Vestager, sachant qu'aucun de ces trois partis n'a réussi à obtenir la majorité lors de l'élection européenne, mais à l'aune des discussions, eh bien, aucun de ces prétendants ne semble faire consensus. Il n'y a eu de majorité sur aucun candidat, dit le président du Conseil Donald Tusk. Pourtant, les dirigeants de l'Union européenne vont devoir se mettre d'accord avec le Parlement sur des noms. Alors, qui pour succéder à Jean-Claude Juncker? Comment vont se partager les principaux postes entre les différents partis? Quels équilibres politiques, mais aussi géographiques, sortiront de cette prochaine commission? Commission, Conseil, Parlement, les futurs visages de l'Union européenne. Pour évoquer ce sujet, nous avons invité Clémentine Forissier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du journal en ligne Contexte. Thierry Chopin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille et conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors. Merci d'être avec nous. On va évoquer toutes ces questions dans quelques instants. D'abord, place à notre retour d'eux. En partenariat avec l'association des prix Albert Londres, le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Turquie. C'est Charles Aquet. Bonjour.
Bonjour.
De Turquie, même d'Istanbul. On vous reçoit, vous êtes grand reporter à l'Express. On vous reçoit pour votre article Istanbul, le cauchemar d'Erdogan. Alors, je rappelle pour les auditeurs, près de trois mois après les élections municipales en Turquie, la mairie d'Istanbul est remise en jeu ce dimanche en raison d'irrégularités. Je mets des guillemets, peut-être qu'on y reviendra. Les autorités ont fait annuler la victoire du candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu. Glou, maire éphémère de la ville pendant 16 jours, qu'il avait emporté face à son rival de l'AKP, Binali Yildirim. Alors, est-ce qu'il pourra renouveler son tour de force et ravir l'ancien bastion du président Erdogan qui avait dirigé la ville, on s'en souvient, avant de devenir Premier ministre? Et d'ailleurs, qui est cet homme politique qui défie l'autorité du Reis? Alors, ces derniers jours, Charles Aquet, İmamoğlu, il a arpenté la ville pour faire campagne, et même au-delà d'ailleurs. Est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il peut devenir le maire d'Istanbul?
Oui, je m'engage un petit peu, mais je pense qu'il peut devenir le maire d'Istanbul. J'ai des chiffres d'hier soir, en exclusivité pour votre émission. A priori, d'après un sondage très sérieux, le seul d'ailleurs institut très sérieux en Turquie, İmamoğlu a 9 points d'avance sur son opposant, sur son concurrent.
C'est énorme, c'est beaucoup plus que le précédent scrutin. Il avait gagné à 13 000 voix près.
C'est ça, 13 000 voix qu'il faut rapporter à 10 millions d'électeurs. Donc effectivement, ce n'était rien du tout. Là, 9 points, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Quand on est à Istanbul et qu'on le suit un petit peu, qu'on voit la liesse qu'il suscite, on le sent quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une énergie nouvelle et vraiment dans l'air, on sent vraiment que les Istanbuliotes ont envie de changement.
Mais comment expliquer cet écart incroyable?
Alors, il y a beaucoup de raisons. Je pense déjà que İmamoğlu incarne autre chose. C'est un politicien de 49 ans face à lui, donc Binali Yildirim à 63 ans. Et c'est pas une histoire d'âge, mais simplement le candidat de l'AKP, donc le parti d'Erdogan, est un ancien premier ministre. Il a aussi dirigé l'Assemblée nationale turque, mais il incarne vraiment le vieux modèle, le vieux système, c'est-à-dire une mairie d'Istanbul qui est un peu le fournisseur de moyens, d'argent, qui finance le parti. Et les Istanbuliotes, même les plus durs, même les plus intransigeants par rapport à ça, sont totalement excédés par... ils sont saturés, en fait, vraiment par ce système. Ils n'en peuvent plus. Et ils ont vu autre chose. Ils ont vu face à eux İmamoğlu, qui est donc un candidat plus jeune, plus moderne, qui a été, comme vous le dites, maire pendant 16 jours. Il a montré déjà en 16 jours beaucoup de choses. Il a dit, c'est fini, ce système de pompe à fric, on va y mettre fin. On va mettre fin au système des appels d'offres où il n'y a qu'un seul candidat. Donc évidemment, quand il y a un seul candidat, on imagine à quel point le système est corrompu. Et surtout, il a réussi une chose incroyable, c'est qu'il a filmé le conseil municipal, le premier conseil municipal qu'il a pu faire, d'ailleurs le seul, parce qu'il a été après éconduit et son élection a été annulée. Et pendant 3 jours, puisque le conseil municipal a duré 3 jours, il a montré aux Istanbuliotes ébahis comment ça se passait. Et là, il y a beaucoup
Donc ce qu'il promet, c'est une rupture en termes d'exercice du pouvoir.
C'est ça. Ils promettront une rupture, autre chose, un nouveau modèle de gouvernance, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus transparent. Et pour donner un petit exemple sur ce conseil municipal, le premier jour, son parti a proposé de créer une commission de lutte contre la drogue. Parce que c'est un problème récurrent, évidemment, à Istanbul. Tout de suite, le parti d'Erdogan a dit non. Non, non, non, non. Parce que ça fait des années que ça dure, selon plusieurs témoignages. À chaque fois qu'il y a un conseil municipal, le parti de l'AKP, qui est donc majoritaire, fait de l'obstruction. Il dit toujours non, par principe. Mais là, le problème, c'est qu'il y avait des caméras. Et le soir même, 3,5 millions de Stambouliotes avaient vu ce qui s'était passé. Sur les réseaux sociaux, c'était une flambée de messages. Les gens étaient courroucés, les gens de l'AKP également, c'est-à-dire du parti d'Erdogan. Ils disaient, mais comment est-ce qu'on peut être contre lutter contre la drogue? Et là, en fait, le parti au pouvoir et le candidat donc d'Erdogan se sont rendus compte que les choses n'allaient plus être comme avant. Se sont rendus compte que tout allait changer. Voilà, il y avait la transparence et ce vent de modernisme joue en faveur d'İmamoğlu.
Mais est-ce que réellement les choses peuvent changer, Charles Lacquet? Parce que vous le dites, il y a effectivement des systèmes avec des appels d'offres avec un seul candidat, il y a des systèmes de facturation qui rapportent énormément d'argent aux entrepreneurs qui sont liés à l'AKP. Vous racontez aussi par exemple qu'il y a une association qui touche à peu près 8 millions d'euros chaque année, qui est présidée par qui? Par Bilal Erdogan, donc le fils du président. Donc on peut se dire qu'effectivement l'arrivée d'İmamoğlu va changer les choses, mais est-ce qu'on peut pas aussi se dire que le président lui-même va essayer de reprendre la main sur cette mairie d'Istanbul, quand bien même elle serait perdue?
Oui, alors effectivement, la question se pose, est-ce que Erdogan va accepter la défaite? Bon, déjà, c'est un sujet. A priori, beaucoup de Stambouliotes ou de personnes que j'ai rencontrées pensent qu'il peut l'accepter, ce qui n'est pas évident, puisqu'il y a eu des précédents. Après ça, d'autres me disent, mais il prépare la suite, il prépare le champ de mine pour İmamoğlu, parce que être maire d'Istanbul, c'est pas seulement être maire d'une ville, c'est être maire d'un système et d'une puissance économique considérable, puisque Istanbul produit plus de 20% de la richesse nationale, ce qui est énorme. Le budget de la mairie, c'est 6 milliards d'euros. Donc, être maire d'Istanbul, c'est vraiment avoir une dimension qui est presque supérieure à celle d'un député ou d'un ministre.
C'est ce que dit souvent Erdogan, qui tient Istanbul tient la Turquie.
Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Donc Erdogan sait très bien qu'il a devant lui quelqu'un qui risque d'avoir une dimension nationale et qui sera sur son chemin dans quelques années lors des prochaines élections. Donc oui, il va tout faire pour le casser. Et il en a les moyens parce qu'il peut très bien, par décret présidentiel, puisque aujourd'hui le système de gouvernance se fait par décret, donc c'est vraiment lui qui tient tous les pouvoirs, décider par exemple qu'un appel d'offres qui dépasse 300 ou 500 000 euros doit passer par l'accord présidentiel. Donc s'il fait ça pour toutes les décisions, à Ankara qui est passé sous les couleurs de l'opposition, le ministre de l'Intérieur, évidemment aux ordres d'Erdogan, a refusé de signer le décret nommant le nouveau secrétaire général. Ce qui fait que la mairie est totalement paralysée. Et évidemment, après, l'AKP peut dire, regardez, ils font rien. Évidemment, puisqu'ils sont incapables de gérer. Donc, il y a mille moyens de bloquer İmamoğlu dans son mandat.
Charles Lacquet, vous nous expliquez un peu, parce qu'on comprend que finalement, İmamoğlu, il est en train de devenir peut-être l'opposant principal de Erdogan. Qui il est? Son parcours? Quel animal politique c'est? On ne le connaît pas beaucoup.
Non, et c'est vrai que par rapport à son concurrent, qui lui a un pédigré, un CV quand même très, très, très, un très beau CV, on se rend compte qu'en fait, İmamoğlu, il a juste été maire de district à Istanbul. Il y a 39 districts au sein d'Istanbul. Donc, c'est pas quelqu'un qui est très charismatique, très connu. Il a un petit peu un look de technocrate. Alors, il vient de l'est de la Turquie. Il vient de Trebizonde, connu sous le nom de Trebizonde, d'un milieu conservateur. Donc, il connaît un peu il connaît ses adversaires, hein, parce que il a un peu évolué dans ce milieu-là. Il est après de passer sous les couleurs du parti d'opposition, laïque et social-démocrate. Et en fait, il s'est révélé vraiment avec les dernières élections, parce que là, les gens, les Stambouliotes, ont vu face à son adversaire quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est appliqué, quelqu'un qui ne commet pas d'erreurs politiques. Il se révèle très vite. En fait, c'est un politicien qui ne va pas commettre d'erreurs, par exemple, de parler de sujets comme les Kurdes, comme le PKK, comme la Syrie. Voilà, il n'a pas du tout... il a très bien compris ça. Les journalistes proches du pouvoir, inféodés, donc à Erdogan, ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement, en Turquie. Les journalistes essaient de le piéger. À chaque conférence de presse, il y a toujours la petite mine mine, la bombe à retardement qui est lancée pour qu'il sorte la phrase. Et il arrive à chaque fois à s'en défaire. Donc il est assez malin. Il sait bien se recentrer sur ses sujets. Il passe pour quelqu'un de très sérieux. Et effectivement, c'est quelqu'un de nouveau. C'est pas comme Zelensky, Vladimir Zelensky en Ukraine. C'est pas un profil post-politique. Certains disent oui, il est au-dessus des partis, etc. Non, moi je pense pas qu'on puisse dire ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu trop prématuré. Mais il a quand même une habileté qui se révèle assez considérable.
Et son programme politique, cher Laquais, c'est quoi son projet pour Istanbul et puis pour la Turquie?
Alors pour la Turquie, il a pas trop dit. Pour Istanbul, il veut démocratiser donc tous les systèmes. Il veut mettre en place, ouvrir un petit peu des process qui sont très fermés. Il veut créer des crèches, il veut vraiment ouvrir des maisons de quartier. Il a un programme social qui est très très élaboré. Et d'ailleurs, je pense que là aussi, pour répondre à votre première question, je pense que Imamoglu avait très bien préparé son coup et qu'en face de lui, l'AKP pensait que ça allait être comme d'habitude. Ils n'ont pas préparé de programme très élaboré. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont très fébriles. Ils essaient de copier et de faire de la surenchère par rapport au programme de leurs concurrents. Mais on sent bien qu'il avait vraiment bien préparé son coup et que face à lui, il avait des gens qui étaient un petit peu assis sur leur certitude.
Qui sont ces électeurs?
Alors, ces électeurs sont des gens... le principal, c'est vraiment des gens d'opposition, plutôt sociodémocrates, plutôt laïcs. Mais également, l'AKP, le parti d'Erdogan, s'effrite un petit peu. C'est extrêmement difficile de dire dans quelle mesure. Mais quand même, on voit apparaître une frange d'électeurs vraiment déçus, qui trouvent que là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ces élections refaites comme ça, c'est une vraie mascarade.
Ouais,
c'est,
vous avez rencontré notamment, par exemple, une électrice historique, j'allais dire, de l'AKP, qui s'appelle Gulistan, qui vous dit qu'elle a toujours voté pour le parti présidentiel, mais que désormais, c'est terminé. Même chose pour ce jeune vendeur de voitures, Onlu Aydin. C'est quelque chose d'assez répandu, visiblement. La base électorale de l'AKP est en train de s'effriter. On le voit à Istanbul, c'est assez clair.
On le voit assez clairement, et chose très nouvelle, c'est qu'ils osent le dire. Alors pas tous, c'était très très difficile d'avoir des témoignages on, c'est-à-dire des témoignages en citant les personnes de façon nominative, mais quand même, certains, un cordonnier dans la rue qui crie devant des gens qui sont forcément de l'AKP autour de lui, c'était un quartier, un fief pro-AKP, qui dit « il y en a marre, c'est la corruption, on vit dans une dictature ». C'était impossible, inimaginable, il y a 2 ans encore. Donc, effectivement, on voit ça. Un élément important aussi, les Kurdes, qui sont un peu le juge de paix, c'est-à-dire qu'ils représentent 10% de l'électorat stambouliote. Les Kurdes pourraient faire basculer aussi la victoire dans le camp d'Imamoglu. Un certain nombre d'entre eux...
Oui, parce que c'est pas une évidence, mais il faut dire aux auditeurs qu'en réalité, d'abord, il y a beaucoup de Kurdes, évidemment, à Istanbul, et que beaucoup sont assez conservateurs et votent pour l'AKP, en réalité.
C'est ça.
Donc là, il y a un enjeu électoral très fort sur les Kurdes.
C'est ça, exactement. Il y a vraiment beaucoup d'électeurs kurdes qui votent pour l'AKP, parce qu'ils sont conservateurs, ils veulent pas voter pour le parti d'Imamoglu. En revanche, une bonne partie... le parti kurde a notamment décidé de s'associer avec le parti d'Imamoglu. Donc ça, c'était une décision politique difficile à prendre parce que les Kurdes se rendent compte qu'ils ont été quand même très opprimés, que le parti d'Imamoglu n'a rien fait pour eux dans les années précédentes. Mais là, c'est vraiment un intérêt politique, c'est très stratégique, c'est du long terme. Et ils vont essayer d'entraîner leur million d'électeurs du côté d'Imamoglu et je pense qu'ils pourraient y réussir.
Oui, puis sans compter que ce qui a fait le succès de l'AKP pendant tant d'années, c'était la prospérité. C'était évidemment une très belle croissance économique. Aujourd'hui, la monnaie se déprécie, l'inflation augmente, le chômage également. Donc, ce qui a fait le succès électoral de l'AKP, n'est plus là.
Ouais, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que c'est pas forcément pour des raisons idéologiques que les électeurs de l'AKP votaient pour Erdogan, mais aussi parce qu'il leur a apporté la prospérité. Il a créé, grâce à des petits entrepreneurs à qui justement il donnait des appels d'offres un petit peu truqués, il a créé une catégorie, une sorte de petite bourgeoisie islamiste qui s'est développée, qui a prospéré, qui aujourd'hui constitue une classe moyenne assez aisée. Et qui voit l'économie s'effriter, se casser la figure. Et là, il commence à se dire, mais est-ce que c'est pas un homme du passé? Même le MEDEF turc a décidé de réagir publiquement, ce qui est quand même assez incroyable et spectaculaire en Turquie, en disant il faut respecter l'état de droit, parce que si on ne respecte pas l'état de droit, les investisseurs vont s'en aller, ce qui est déjà le cas, parce qu'il y a à peine 4 milliards d'investissements directs en Turquie sur un PIB de plus de 800 milliards. Donc c'est vrai que les étrangers s'en vont, ils ont peur, ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer?
Il y a un autre événement un peu spectaculaire, assez inédit qui a eu lieu, c'est un débat à la télévision, justement entre les deux rivaux. Je dis assez exceptionnel parce que ça doit faire 17 ans, je crois que c'est vous qui le rappelez, hein, l'ai lu sous votre plume, 17 ans que les Turcs n'avaient pas eu le droit à un tel débat à la télévision. Comment interpréter justement tout cela? Est-ce qu'il faut y voir une forme de relâchement de la part d'Erdogan? On sait qu'évidemment, il y a ce durcissement très fort, en particulier depuis la tentative de coup d'État en juillet 2016. Est-ce qu'on est en train aussi d'assister à une forme de relâchement? Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut voir?
Écoutez, moi,
pas forcément.
Non, je vais voir autre chose. Ouais. Je suis désolé, mais moi, je vois plutôt une forme de fébrilité de la part du pouvoir. Je pense que Bin Ali Idrim n'aurait jamais accepté ce débat. Il n'aurait pas eu besoin. Si jamais il sentait pas, comme l'institut de sondage en question, que le pouvoir lui échappait. Et je pense que ce débat, c'est plutôt un signal, à mon sens, d'une défaite déjà plus ou moins envisagée.
Et alors, si on regarde du côté de l'AKP lui-même, Charles Haquet, il y a eu en avril dernier ce manifeste publié par l'ancien Premier ministre Ahmet Davutoglu, dans lequel il critiquait assez vertement le régime. Je le cite, au début des années 2000, la Turquie s'est démocratisée et développée sur le plan économique, mais ces dernières années, elle est devenue réactionnaire et défensive. Les mécanismes de consultation ont perdu leur fonction en devenant des instances qui ne servent qu'à approuver un avis unique. Est-ce que cet avis-là, justement, cette critique, c'est quelque chose qui se diffuse, là encore, au sein de l'AKP? Est-ce qu'on est en train, au sein de l'AKP, de remettre en question la légitimité de Erdogan, son autorité?
Oui, alors ça, en revanche, c'est très difficile d'en avoir une assurance, parce que chez les caciques et dans les cadres dirigeants de l'AKP, c'est... Il ne parle pas vraiment. Mais effectivement, ce manifeste en tant que tel est un signal. Il faut aussi citer l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Babacan, qui est en train de créer aussi un autre parti. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est pas sûr. Mais bon, on le dit de plus en plus. Et là, ce schisme, cette volonté de quitter le parti d'Erdogan était là encore assez difficilement envisageable il y a 2 ans. Donc ça montre bien effectivement que même à haut niveau, on se pose beaucoup de questions.
Et que donc peut-être il y aurait dans les mois qui sait à venir une forme d'implosion de l'AKP? C'est possible?
En tout cas, il peut y avoir une création de plusieurs partis. Alors qui vont-ils entraîner dans leur sillage? Je pense que Babacan en question se pose la question. Monsieur Davutoglu a été déjà un petit peu marginalisé par le pouvoir, donc il ne va pas forcément entraîner le cœur de l'électorat. Donc voilà, ça risque d'être assez marginal à la fin, mais en tout cas ça montre bien une implosion programmée.
Alors, on se souvient que Erdogan était arrivé au pouvoir par le truchement précisément de la mairie d'Istanbul, avant de devenir Premier ministre et puis aujourd'hui président. Est-ce que vous pensez qu'Imamoglu peut faire la même chose? C'est-à-dire prendre la mairie d'Istanbul et ensuite, pourquoi pas, devenir président à la place d'Erdogan et fermer la parenthèse Erdogan?
Oui, il peut, parce qu'il suit le même parcours, effectivement. Et ce qu'il faut voir, c'est que Imamoglu, ces dernières semaines, a été dans l'est de la Turquie. Il a fait des meetings dans des endroits qui n'ont rien à voir avec Istanbul. Pourquoi? Pour acquérir cette dimension nationale. Donc je pense que Erdogan, en fait, sans se rendre compte, s'est créé un ennemi à sa mesure.
Merci beaucoup, Charles Haquet, d'être passé dans nos studios. Je rappelle donc que vous êtes grand reporter à l'Express et qu'on peut lire donc justement ce papier dans l'Express, Istanbul, le cauchemar d'Erdogan, qui est publié mercredi. Hein ? Merci beaucoup, Charles Haquet.
Merci.
Allez, on quitte la Turquie, direction l'Europe, Commission, Conseil, Parlement, les futurs visages de l'Union européenne.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que les dernières élections européennes ont fait émerger un nouveau paysage politique en Europe et que l'on a assisté à un éclatement des forces au Parlement de Strasbourg, les dirigeants de l'Union européenne vont devoir s'entendre sur la répartition des différents postes à pourvoir au sein des institutions. Les dirigeants se retrouvaient hier à Bruxelles et pour l'heure, eh bien les choses ont bien avancé puisqu'elles sont totalement bloquées.
Il est apparu clairement qu'il n'y avait pas de majorité possible sur les non initialement considérés. Cela ne m'étonne pas. Donc maintenant, il faut, dans la semaine qui vient, construire le consensus pour le 30 juin prochain, pouvoir avoir un accord qui qui permettra d'avoir cette équipe d'Europe qui porte ce projet, qui permet de rassembler les différentes familles politiques et qui porte une ambition commune.
Alors voilà, donc Emmanuel Macron, qui pour présider la future commission? Qui sont les candidats des partis, les fameux Spitzenkandidat? Faudra-t-il trouver d'autres noms? Comment le nouveau rapport de force sorti des urnes va-t-il peser sur la composition et sur la politique qui sera conduite en Europe dans les 5 prochaines années? Clémentine Forissier, rédactrice en chef du journal en ligne Contexte, est notre invitée, avec Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Marc Semo, notre partenaire du Monde comme chaque vendredi. Marc, si on était dans l'environnement d'il y a 5 ans, ce serait assez simple. Le parti conservateur étant arrivé en tête, eh bien, ce serait à lui de prendre la tête de la commission, en l'occurrence l'allemand Manfred Weber. Sauf que 5 ans plus tard, le paysage politique n'a plus rien à voir. Il y a d'autres forces politiques qui sont là, qui pèsent davantage. Il y a évidemment l'Alliance des démocrates et des libéraux, rebaptisée Renaissance européenne. Il y a le groupe Vert aussi. Il y a le groupe Identité et démocratie de Matteo Salvini. On est sorti finalement de ce paysage dans lequel deux partis dominent à peu près la scène politique, avec les conservateurs et les sociaux-démocrates. Et aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus incertaines. L'incertitude, c'est la première conséquence de ce dernier scrutin européen.
Absolument. Alors, ce d'autant plus que l'élection d'un président de la Commission européenne, donc du successeur de Juncker, ça tient d'un conclave du Vatican. Ça se joue au consensus le plus large pour avoir d'un côté une majorité de gouvernement des 28 et de l'autre une majorité au Parlement. Alors, le plus souvent, justement comme dans un conclave, les premiers candidats qu'on met en lice, sont aussitôt carbonisés. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Le candidat du PPE, le Parti Populaire Européen, le premier groupe du Parlement, avec 180 députés, le chrétien-démocrate Manfred Weber, est déjà hors-jeu après le refus des socialistes et des libéraux de le soutenir. Mais les candidats de ces derniers, respectivement le social-démocrate batave Frans Timmermans et la libérale danoise Margrét Vestager, le sont aussi par rétorsion. Ils n'auront pas le soutien du PPE. Alors, l'élection du 26 mai, comme tu le disais, a créé une équation totalement nouvelle au Parlement. La majorité n'est plus comme avant à 2, où on se partage le pouvoir entre PPE et Parti Socialiste Européen, mais à 3, avec les libéraux en position d'arbitre, voire à 4, puisqu'il faudra peut-être aussi le soutien des Verts. Alors, Emmanuel Macron aurait pu être le faiseur de roi, puisque avec ses 21 députés, c'est le premier groupe au sein des libéraux. Mais l'explosion en vol de Nathalie Loiseau, éructant dans un off contre nombre de ses pairs, et le style très monarchique du président français, irrite bon nombre des dirigeants européens. Alors on est dans un blocage institutionnel, qui est d'autant plus malvenu que les électeurs des 28, cette fois, s'étaient plutôt plus mobilisés que les autres fois. Il faut donc aller vite. Alors, on va ressortir des candidats. Donc, c'est ainsi que réapparaît la possibilité d'une candidature de Michel Barnier, qui a l'avantage d'être centriste et membre du PPE, voire de Donald Tusk,
mais
qui est
inconvénient d'être français,
le président du Conseil européen, mais qui est aussi membre du PPE. Et donc, voilà, on est à la recherche d'un compromis, comme dans un conclave.
Voilà, le décor est posé. Thierry Chopin, Clémentine Forissier, effectivement, le premier élément qu'on voit, c'est que les trois Spitzenkandidat qui, a priori, si on avait été il y a 5 ans, eh bien, ça aurait été a priori l'un de ces trois-là. Visiblement, pas de consensus autour de aucun de ces trois-là. Que vous inspire justement ce rejet des candidats officiels des partis ?
Qu'il est le reflet de la situation politique que vous venez de décrire. Je ne sais pas si on peut dire que la situation est complètement bloquée. En réalité, ce qui s'est passé hier, c'est relativement logique, c'est-à-dire qu'effectivement le PPE, qui d'habitude est largement en tête, peut imposer plus facilement son candidat, puisque comme le Conseil doit tenir compte du résultat des élections européennes et que à deux le PPE et les sociaux-démocrates faisaient une majorité, bon bah voilà, celui qui était en tête s'imposait et puis après il se partageait un peu le gâteau au Parlement européen. Là, c'est plus le cas. Donc finalement, ce qui s'est passé hier, c'est pas complètement illogique, c'est-à-dire que ceux qui ont un poids politique plus fort au Parlement européen disent, attendez, en fait, il n'y a pas de majorité pour soutenir votre candidat PPE, ni au Conseil, ni au Parlement. C'est la rhétorique d'Emmanuel Macron qui est assez implacable d'un point de vue purement théorique. Après, on pourra peut-être parler de l'arrogance française qui énerve et qui peut-être complique un petit peu la donne. Mais en l'occurrence, là, ce qui s'est passé hier, c'est pas totalement illogique. Donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où personne n'ayant ne se dégageant clairement en termes, parce que la différence entre le nombre de sièges entre les trois principaux groupes est pas fondamentale, et effectivement ils devront au moins être 3 voire 4 pour faire une majorité. Et donc la question, c'est maintenant qui Qui pourrait être ce futur président de la Commission? Parce que, en revanche, je pense que le Parti populaire européen, les conservateurs, n'ont pas du tout abandonné l'idée que, même s'ils ne sont pas largement en tête, ils doivent obtenir ce poste. Donc la question, c'est qui pourrait être ce nouveau Manfred Weber? Est-ce que c'est Michel Barnier? Est-ce que c'est des Croates, comme on en entend parler? Là, le jeu est assez ouvert.
Thierry Chopin, finalement, tout cela est parfaitement logique, nous dit Clémentine Forissier.
Effectivement, on est toujours habitué à un petit psychodrame à chaque Conseil européen pour le choix du président de la Commission. Alors, c'est vrai qu'en même temps, il y a quelques nouveautés, en tout cas par rapport à il y a 5 ans. Vous l'avez dit, Florian, vous-même tout à l'heure, à très juste titre. Il y a 5 ans, le mécanisme du Spitzenkandidat avait été mis en œuvre. C'est pas le cas aujourd'hui pour les raisons qui ont été évoquées par Maximo sur le plan politique et institutionnel, c'est-à-dire une plus grande fragmentation du Parlement européen après les élections qui rend très compliquée la définition d'une majorité en faveur de tel ou tel candidat. Donc ça explique effectivement fondamentalement qu'il n'y ait pas eu d'accord. Mais au-delà de la logique politique et institutionnelle, il y a aussi deux autres types, j'allais dire, de rapports de force en fait qui entrent en ligne de compte. Et qui explique en fait qu'il n'y ait pas eu d'accord. Il y a également un rapport de force, j'allais dire, interinstitutionnel entre le Parlement européen où effectivement aucune majorité n'a été dégagée, et puis le Conseil européen où, là encore, non plus une majorité n'a pas été dégagée sur aucun des noms. Et je pense que ce rapport interinstitutionnel, il est intéressant de s'y arrêter un tout petit peu parce qu'il met en évidence aussi un clivage politique entre la France et l'Allemagne. On a bien vu au cours de ces dernières semaines que le président français ne voulait pas de Manfred Weber et donc mettait en question la procédure du Spitzenkandidat.
Pourquoi il n'en veut pas? À cause de ce processus de désignation ou parce qu'il est allemand, disons les choses?
Parce que l'argument, en tout cas, qui est avancé par les autorités françaises, c'est le premier. Et l'argument qui n'est pas du tout irrationnel, consiste à dire ce mécanisme, en fait, a un sens à partir du moment où ces élections sont organisées sur la base de listes transnationales. Or, ces listes transnationales, elles n'ont pas vu le jour pour ces élections européennes, donc exit la procédure du Spitzenkandidat. L'autre élément, c'est qu'évidemment, avec ce mécanisme-là, et compte tenu du fait que le PPE, à droite de l'échiquier politique, a toujours obtenu le plus de sièges à l'issue de ces élections, maintenir stricto sensu une lecture, en tout cas rigide du mécanisme du Spitzenkandidat aurait pour conséquence en fait de devoir choisir pour le Conseil européen systématiquement un président de la Commission qui soit issu des rangs du PPE. Donc pour ces deux raisons-là, indépendamment de la nationalité de Manfred Weber, je pense que ça a joué. Et puis troisièmement, il y a une troisième logique en fait qui joue, qui entre en ligne de compte au-delà de cette logique institutionnelle et de cette logique politique partisane. C'est un rapport de force diplomatique. La France, l'Allemagne, on en a parlé. Pour les pays venant du Sud, franchement, la candidature de Manfred Weber, alors là, pour le coup, allemand, passe mal. Vous avez donc des logiques géographiques, nationales, qui entrent en ligne de compte dans le cadre d'une négociation diplomatique, effectivement, dont la première étape a éliminé un certain nombre de candidats en attendant la seconde étape.
Clémentine Forissier, puis Marc Sémon.
Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler qu'en 2014, c'était l'Allemagne qui voulait pas entendre parler du principe du Spitzenkandidat. Et que Angela Merkel y avait été contrainte parce qu'il y avait eu une campagne de presse terrible où en gros on lui avait dit que qu'elle était contre la démocratie. Je sais plus, je crois que c'était Le Spiegel qui avait titré là-dessus et elle était largement minoritaire et donc même si c'est un vote à la majorité, c'est quand même compliqué d'apparaître comme la seule qui est mise de côté et puis on peut pas mettre de côté l'Allemagne comme ça. Mais donc c'est intéressant de voir que finalement au Conseil européen ce système-là qui est une création ultime. Enfin, c'est une interprétation un peu particulière du traité. Elle plaît pas tant que ça, en fait.
Et là, c'est pas prévu dans les traités.
Non, c'est pas prévu. C'est une manière dont le Parlement a voulu un peu prendre le pouvoir. Et ça peut être assez logique. Ce que disent les textes, c'est que le Conseil européen doit proposer un nom qui doit être ensuite validé par le Parlement. Donc il y a quand même ce jeu entre les deux institutions. Mais là, que ce soit automatique n'est pas prévu comme ça par les textes. Que ce soit le Spitzenkandidat. Ce qui est intéressant aussi de voir là, c'est que le groupe de Visegrad, donc les Hongrois, les Polonais, les Tchèques et les Slovaques, ont aussi dit qu'ils ne voulaient pas de Manfred Weber. Donc il n'y a pas que les Français. En fait, ce candidat-là, depuis
pas que les Français, pas que les pays du Sud.
Voilà. Ouais, et même pas que les Allemands, parce qu'en fait, ce candidat, on entend depuis un an dire qu'en fait, il ne plaît pas spécialement à Angela Merkel, mais il est soutenu par le PPE, par la CDU, et donc elle est quand même un petit peu bloquée.
Ouais. Marc Sémon et puis Thierry Chopin.
Alors, on va peut-être déjà élargir, parce que, bon, il y a la question du président de la Commission, donc on est avec cette question du Spitzenkandidat, mais aussi, c'est tout un jeu de chaises musicales, puisqu'il faut élire le président du Conseil européen, aussi le ou la chef de la diplomatie européenne, où on est dans une espèce de d'équation à paramètres multiples, où entre en lice la nationalité, le parti, le sexe. Voilà, donc la logique est que si le président de la Commission est un homme, il faut une femme pour le présider le Conseil européen. Alors il y avait même une équation de rêve évoquée par Emmanuel Macron qui était Michel Barnier président de la Commission, Angela Merkel présidente du Conseil européen, celle-ci ayant clairement démenti et disant que ça ne l'intéressait absolument pas. Mais on, voilà, on est quand même dans un truc à multiple. Alors pour vous, quel est à l'un ou à l'autre d'ailleurs la Dream Team ?
Thierry Chopin, votre Dream Team.
Et ensuite le plus plausible.
Alors, d'abord, quand même, pour revenir d'un mot sur ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est une équation à plusieurs inconnues. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui explique que Manfred Weber n'ait pas été accepté. C'est-à-dire que les trois inconnues principales sont, un, l'appartenance partisane. Alors, ok, Manfred Weber fait partie du PPE, mais c'est un CSU. Et ce parti n'est pas la CDU non plus. Donc il est, j'allais dire, relativisé aussi un petit peu de ce point de vue-là. De l'origine nationale, effectivement, il est allemand. Je ferais remarquer, pour commencer à entrer dans ce jeu, dans cette discussion sur le jeu des chaises musicales, que effectivement, si on regarde la Commission et la BCE, pour la première fois, sauf erreur de ma part, l'Allemagne a deux candidats pour ces deux institutions, en même temps. Il est arrivé dans l'histoire de la construction européenne qu'un Allemand préside la Commission. C'est arrivé, mais il y a très longtemps. Walter Hallstein. Donc il y a effectivement très longtemps. Et ce n'est jamais arrivé, en tout cas, qu'il y ait eu un président allemand de la Banque Centrale Européenne. Donc là, il y a un sujet. Et le troisième élément qui me paraît important, c'est quand même la question du profil personnel. Parce qu'au-delà de tous les éléments dont on a parlé, critères partisans, critères géographiques, etc., il y a quand même le critère de compétence, en fait, qui joue. Alors, je ne veux pas dire que Manfred Weber n'était pas compétent, j'en sais rien, sauf qu'il n'était pas jugé suffisamment.
C'est une des choses qu'on a entendues du côté de Paris, en tout cas. Il n'a jamais eu de ministère.
Exactement.
Et,
voilà. Bon.
Et alors, sur la question de Marc, la Dream Team est l'équipe la plus probable ?
Alors, c'est tout. Il y a beaucoup de personnalités, moi, qui me semblent vraiment de qualité. Parmi celles, d'ailleurs, qui ont été dégagées, pardon de l'expression, que ce soit Margaret Vestager ou Frans Timmermans, ce sont des gens de très grande qualité. Donc, c'est difficile de parler de Dream Team. Mais qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est probable? Moi, je pense quand même que l'horizon se dégage pour quelqu'un comme Michel Barnier. Alors, il a un inconvénient, peut-être, dans le contexte actuel, c'est qu'il est français. Pour les raisons évoquées, même en creux tout à l'heure, il présente quand même beaucoup d'éléments intéressants pour sa candidature.
En plus, c'est un Français atypique.
Alors, il fait partie du PPE. Donc le PPE pourrait sauver la face, même si c'est un PPE très compatible avec les libéraux, compatible avec les Verts. C'est quelqu'un qui était ministre de l'Environnement en France.
Donc c'est un Français atypique en ce sens qu'il négocie et il est conscient de cette manière, de cette grammaire du Parlement européen et de l'Europe qui est différente de celle de la France.
Effectivement, il a à la fois été ministre à plusieurs reprises dans notre pays, à des postes très importants. Alors, j'évoquais ministre de l'Environnement, mais il a été ministre des Affaires étrangères. Il a été deux fois commissaire européen. La première fois en charge de la politique régionale.
Il a le CV.
Et la deuxième fois en charge du marché intérieur et des services financiers. Négociateur en chef
sur le Brexit.
Il est reçu comme un chef d'État à chaque fois qu'il arrive dans un pays membre de l'Union européenne. Et Pascal Ami a une expression, en fait, pour décrire la qualité principale qui doit être celle du président de la Commission, c'est que ça doit être quelqu'un qui doit réduire la méfiance. Bah, précisément, Michel Barnier, cette qualité-là.
Clémentine Forestier, votre dream team.
Alors moi, je rêve
votre
pas.
Votre équipe de rêve, pardon.
Je rêve pas en pensant au poste à responsabilité dans l'Union européenne.
On réfléchit en termes de compétences.
Non. Ce qui paraît effectivement possible. Je vous aurais peut-être pas dit ça il y a quelques temps, mais effectivement, ça, peut-être que ça réouvre le jeu pour Michel Barnier. À ceci près que Angela Merkel ne l'apprécie pas, et pour des raisons qui sont, je crois, en partie liées à des négociations sur des directives dans la précédente mandature, notamment celle sur les concessions. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, voilà, il n'est pas très apprécié des Allemands, et au-delà du fait qu'il est français, donc il y a quelque chose qui bloque avec la candidature de Michel Barnier. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que tout d'un coup, on voit surgir des noms de personnalités que personne, enfin Michel Barnier, je ne sais pas s'il est connu tout le monde, mais en tout cas, je pense que la présidente slovaque et le premier ministre slovaque, croate, personne ne les connaît. Et c'est des noms qui depuis hier resurgissent un peu. Donald Tusk a dit qu'il voulait pas du job de président de la Commission, mais bon. Donc aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas d'informations autres que, voilà, Michel Barnier qui était candidat en sous-main et ces deux noms de Croates. Bon, et si c'est le cas, à ce moment-là, il faut au Conseil européen, effectivement, que ce soit... Là, les libéraux voulaient le poste. On parle de Charles Michel, le Premier ministre belge. Mais ça fait deux hommes. Ça fait deux hommes, et pour l'instant, on n'a pas de pays d'Europe centrale et orientale.
Et très Europe carolingienne.
Voilà, ouais. C'est ça. Alors, on parle de Maro Šefčovič, qui est le commissaire slovaque, qui est déjà commissaire depuis deux mandats. Son pays l'a confirmé pour la future Commission européenne comme commissaire. Et donc, ça pourrait faire plaisir au groupe de Visegrad. Et on n'a toujours pas de femme. Donc, alors, et là, il faudrait au Parlement européen. Alors, donc, on parle peut-être d'une coprésidence du Parlement européen avec la moitié du mandat pour les sociaux-démocrates et peut-être la moitié du mandat pour les Verts avec Ska Keller qui est une femme. Et donc, c'est voilà.
Alors, justement, il n'y a pas de femme. Alors, j'entends bien que c'est le PPE qui est arrivé en tête et que donc, a priori, il serait assez naturel que ce soit un membre du PPE qui soit à la présidence de la Commission. Mais enlevons un peu cette hypothèse et parlons de Margrethe Vestager, parce que c'est une femme importante qui est aujourd'hui commissaire à la concurrence, qui s'est construit quand même cette image d'une responsable forte, intègre, indépendante. Elle a lutté contre l'optimisation fiscale, elle a mis des amendes à des géants du numérique, à Google, à Apple. Il y a un récent sondage qui a été effectué au début de l'année qui la plaçait très largement en tête des commissaires les plus populaires et même comme la personnalité la mieux à même de prendre la suite à la tête de la Commission. Est-ce que finalement, bien qu'elle ne soit pas conservatrice, elle pourrait faire consensus et se retrouver à la tête de la Commission? C'est une femme.
En fait, le Conseil européen a dit non hier. Puisqu'elle était la Spitzenkandidate finalement des libéraux, même après coup.
On peut revenir sur ce rejet. Rien ne l'empêche en théorie.
Rien ne l'empêche en théorie, mais ça paraît peu probable. Alors, quand même, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, Florent. Vous disiez il serait naturel que ce soit un PPE qui soit président de la Commission. Pas forcément. C'est-à-dire, justement, on revient à la question d'interprétation de ce que disent les traités de ce point de vue-là. Les traités disent le Conseil européen choisit le président ou la présidente de la Commission en tenant compte du résultat des élections européennes. Et sachant que le président de la Commission et l'ensemble de la Commission doivent ensuite recevoir l'investiture par un vote à la majorité du Parlement européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, comme on l'a supposé en fait en 2014, que c'est le parti arrivé en tête dont finalement le chef de file doit devenir président de la Commission ou président de la Commission? Pas nécessairement, surtout dans un Parlement européen.
Justement, c'est pour ça que Vestager, c'est possible.
Alors, théoriquement, politiquement, c'est pas possible.
Théoriquement, institutionnellement, c'est possible, sauf qu'il n'y a pas de majorité, ni au Parlement européen, visiblement, ni au Conseil européen, sur son nom.
Mais politiquement, c'est compliqué. Joseph Daul, qui est le président du Parti populaire européen, a dit dès le début du processus, juste après les élections, on peut discuter de tout, sauf du poste de président de la Commission. Sous-entendu, on peut lâcher sur le programme, enfin voilà, on est d'accord pour tout, sauf sur ça. Et là, hier, ils ont réaffirmé leur soutien quand même à Manfred Weber pendant la journée. Alors hier soir, a priori, quand même, on peut penser que sa candidature à lui n'est plus possible. Mais je pense que politiquement, dire au PPE, ce ne sera pas vous, c'est très très compliqué aujourd'hui. Et je ne vois pas comment on pourrait sortir de cette situation où on a un président de la commission PPE.
Bon, politiquement, ce n'est pas possible. Allez, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Tu fais le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux ! Assis !
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors ce matin, un portrait de Jean-Claude Juncker en Dieu tout-puissant.
Et oui, le dessin de ce matin est une reproduction façon caricature, bien sûr, d'un des plus célèbres tableaux de Michel-Ange, la création d'Adam. Vous savez, ce chef-d'œuvre qui figure au plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, ce célèbre bras tendu, ces deux index qui se touchent presque entre d'un côté Dieu tout-puissant et de l'autre l'homme, sa créature, Dieu est en surplomb, drapé dans une toge entourée d'anges et de nymphes. L'homme est en contrebas sur un rocher complètement nu et seul. Si vous avez l'image en tête, et bien maintenant, imaginez Jean-Claude Juncker à la place de Dieu et Matteo Salvini, vice-président du Conseil italien, à celle de l'homme, à ce détail près que Salvini, au lieu de tendre la main humblement envers son créateur, et bien lui présente un doigt d'honneur. Et le regarde d'une façon qui semble dire « Je ne vous dois rien, je n'ai rien à recevoir de vous ». ni conseil, ni ordre, ni adoubement. De plus, Salvini n'est pas complètement nu, puisqu'un drapeau italien recouvre sa nature. Et ce qui est intéressant dans ce dessin signé Patrick Lamassoure, un dessinateur français plus connu sous le pseudo de Monsieur Cac, c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction de Jean-Claude Juncker face à ce crime de lèse-majesté. Alors est-ce l'effet de ses lunettes aux épaisses montures ? Jean-Claude Juncker semble n'avoir rien vu. Il garde son bras tendu dans le vide, c'est un peu humiliant. On notera au passage sa silhouette peu flatteuse. Le magnifique personnage de Michel-Ange a laissé place à un homme aux tempes grises et bedonnant, engoncé dans son drapeau européen. Son regard presque éteint se perd dans le lointain. Alors faut-il y voir l'idée que Juncker, censé incarner ici non seulement l'Europe, mais aussi une certaine idée de la puissance, de l'autorité, serait en réalité incapable de se faire respecter? Il faut dire que les provocations et les bras de fer n'auront pas manqué ces dernières années entre le président de la Commission et certains chefs d'État. À commencer par Salvini, bien sûr, qui n'aura cessé d'accuser l'Europe d'être à l'origine de tous les maux dont souffre l'Italie. Et peut-être Monsieur Cac essaye-t-il aussi de nous dire que Juncker n'a pas suffisamment pris conscience de ce mouvement de rébellion, de la montée de l'euroscepticisme et de la contestation des fondamentaux de l'Europe par ses propres membres. Il affiche ici un détachement presque agaçant, voire méprisant, comme s'il ne daignait même pas poser son regard sur cet agitateur. Bonne illustration du rapport de force entre les États d'un côté et les institutions européennes de l'autre. Juncker aura-t-il été trop cinglant ou pas assez ferme? Comme souvent dans un dessin comme en analyse politique, tout est question d'interprétation.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon. On diffuse évidemment ce dessin, cette caricature sur le site de France Culture, sur le fil Twitter de l'émission. Clémentine Forissier, Thierry Chopin, réaction sur ce dessin?
Je pense que la question italienne, plus précisément au-delà de la question de l'opposition et de la montée des populistes, la question italienne va être vraiment un enjeu des mois prochains. Les enjeux budgétaires pour l'Italie sont assez forts. Les Européens ont un peu tapé du poing sur la table cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où finalement les Italiens avaient un peu changé leur copie. Ça m'inspirait ça immédiatement. C'est-à-dire que, en fait, le doigt d'honneur de Matteo Salvini, est-ce que dans les prochains mois, il pourra rester dans cette position-là? Je ne sais pas.
Thierry Chopin, ce qui est aussi frappant, c'est que Matteo Salvini, maintenant, c'est le chef de file de ce groupe Démocratie Identité, dans lequel on retrouve un certain nombre de partis d'extrême droite d'Europe, les Danois, les vrais Finlandais, l'AFD allemand, le Rassemblement National Français, évidemment. On nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir maintenant qu'on est en place en Europe. Il pèse pas dans le processus de désignation dont on parle depuis le début de cette émission. On n'a pas évoqué ce groupe-là, les eurosceptiques finalement. Il ne chamboule pas tellement la mécanique européenne.
Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une montée de ces forces politiques. Elle passe de 20 à 25%, grosso modo. Donc 20-25%, ce n'est pas un chamboulement, c'est-à-dire que ça constitue une minorité. Je pense que c'est toujours bon de rappeler le rapport de force politique général. Il représente 25%. C'est une minorité qui n'est pas capable de créer un blocage au sein du Parlement européen. Donc effectivement, l'impact institutionnel, il est très modéré et il n'est pas très fort. Par contre, politiquement, il y a quand même deux choses. La première, c'est que le discours de ces forces politiques impacte l'agenda, y compris des partis politiques modérés. On l'a vu sur la question migratoire, par exemple. Donc il ne faut pas du tout minorer, à mon avis, l'influence que peut avoir ce discours-là sur la radicalisation du discours politique en Europe et du débat public. Et puis la troisième chose, c'est que ces forces politiques sont représentées aussi au Conseil européen. Vous avez un Viktor Orban, vous avez un Salvini qui est en réalité le véritable Premier ministre italien, vous avez des Polonais, etc. Et au Conseil européen, on décide dans beaucoup de cas, en fait, à l'unanimité. Et donc, si ces chefs d'État ou de gouvernement veulent mettre leur veto, ils pourront le faire. Donc, à mon avis, l'impact politique et institutionnel est beaucoup plus fort au Conseil européen qu'au sein du Parlement européen.
Et alors, quid des forces écologistes? Parce que l'autre élément, l'autre leçon de cette dernière élection, c'est la montée en puissance des écologistes, pour le coup. Quel sera le visage écologiste vert de l'Union européenne de demain? Il est question, là, visiblement, peut-être qu'il se partage le poste de chef de la diplomatie avec les sociaux-démocrates. C'est ça, le visage vert de l'Union européenne de demain, Clémentine Forissier?
Alors, ce serait le poste de président du Parlement, ce serait pas le poste de chef de la diplomatie, qui pourrait éventuellement se partager. Aujourd'hui, ils n'ont pas de représentants justement au Conseil européen. Donc leur poids politique, il est quand même minoré par ça. Mmh. En revanche, donc je pense pas que ce soit vraiment dans les postes à responsabilité qu'ils puissent, en tout cas pas dans les quatre dont on parle là.
Les top jobs,
voilà,
on dit, ouais, à Bruxelles.
Qu'on puisse voir des verts. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est assez notable, c'est sur la question du programme, dont on parle beaucoup plus qu'on a jamais parlé dans les précédentes mandatures au démarrage. On n'associait pas à ce point la question du programme et la question des nominations. Et la question du climat est vraiment le sujet qui a été d'ailleurs discuté pendant 2 heures hier et qui a fait prendre pas mal de retard au dîner.
Sur lequel on s'est pas mis d'accord,
mais sur lequel il y a quand même une progression et qui va certainement irriguer une bonne partie de l'agenda politique de la prochaine mandature.
Ouais. Marc Zemmour puis Thierry Chopin.
Oui, alors revenons-en justement au chef de la diplomatie européenne. On en est où là? Qui est quand même un poste clé actuellement.
Franchement, est-ce que c'est un poste clé?
Non, par rapport à une fois au-delà d'être parmi les 4 top jobs, bon, c'est le 4e, c'est le voilà, c'est quand même symboliquement au moins un poste clé. En plus, il y a quand même un travail à faire puisque jusqu'ici les deux femmes qui ont occupé le poste, Ashton et Mogherini, n'ont pas nécessairement convaincu. Donc est-ce que ça va toujours être une femme? Et est-ce que justement, il n'y a pas, compte tenu de la montée des tensions un peu partout, quand même,
Je répète, je ne pense pas que ce soit un poste clé. Et honnêtement, aujourd'hui, le seul dont j'entends vraiment un peu parler, c'est le Slovaque, qui est Maroš Šefčovič, l'ancien commissaire européen. Je pense que le sujet, c'est de se décider sur président de la Commission européenne, président du Conseil européen, et par hasard, là, le calendrier tombe en même temps que la BCE, alors même si on explique qu'on ne va pas prendre la décision en même temps, parce qu'il ne faut pas qu'on... Il ne faut pas qu'on ait l'air d'avoir que le poids politique que la nomination soit trop politique. Mais voilà, pour moi, le chef de la diplomatie ou la chef de la diplomatie, vous dites que les deux précédentes élues ont pas forcément marqué, mais elles n'ont pas marqué parce que le job est intenable et qu'en réalité, personne n'a vraiment envie de donner à l'Union européenne un visage extérieur uni avec une politique claire.
Thierry Chopin.
Oui, alors peut-être sur les deux points. Sur la dimension environnementale, quel sera le visage finalement de l'Union européenne pendant ces 5 prochaines années? Moi, je pense qu'effectivement, comme Clémentine, que ça va être vraiment une priorité. On l'a dit, ce Parlement européen post-élection, il est fragmenté et que le PPE et les sociodémocrates vont devoir élargir leur coalition aux libéraux. Arithmétiquement, en fait, ça sera suffisant pour prendre des décisions législatives, budgétaires, etc., y compris en matière environnementale. Je pense que politiquement, il est absolument indispensable que les Verts, en fait, soient dans cette coalition, compte tenu quand même de ce qui s'est exprimé en fait dans les urnes dans beaucoup de pays, y compris dans les grands pays, en France, en Allemagne et dans d'autres aussi. Et donc, c'est tout l'enjeu quand même d'un accord de coalition, en fait, de ce point de vue-là, à 4, où la question environnementale devrait normalement être centrale.
Il y a quand même un sujet dont on parle maintenant depuis des années et qui risque d'être directement impacté par tout ça, par ces difficultés justement à trouver, à mettre des noms sur ces top jobs, c'est la question du Brexit. Theresa May a évidemment démissionné, Boris Johnson visiblement est plutôt bien placé pour la remplacer. Il faut trouver une solution à ce Brexit d'ici la fin du mois d'octobre. Or là, on est un peu embourbé dans des processus de désignation. Il n'est pas impossible qu'on soit confronté, comme le disait tout à l'heure Marc Zemmour, à une crise institutionnelle, une vraie difficulté. On va mettre probablement pas mal de temps à désigner les gens. Enfin, est-ce qu'on peut là éviter le Brexit dur? Est-ce qu'effectivement les Européens vont être en capacité d'accueillir les Britanniques qui sont visiblement assez enclins à renégocier les choses? Est-ce qu'on peut éviter le Brexit dur, Clémentine Forissier, à cause précisément de ce processus de désignation qui est compliqué?
Je ne sais pas si on peut éviter le Brexit dur, mais je ne sais pas si c'est lié à la question du processus de désignation qui est compliqué. D'abord, il faut savoir que là, il y a un deuxième sommet qui est prévu, donc le 30 juin.
Le 30 juin,
donc
ouais.
C'est la semaine prochaine. Et pourquoi cette date? C'est parce que la semaine qui suit, le Parlement européen se réunit et doit élire son président. Et si vous laissez le Parlement européen se réunir et élire son président seul, ça veut dire que vous vous privez d'une carte pour la répartition justement des postes avec cet équilibre dont on a parlé. Donc je ne suis pas certaine qu'on aille vers une crise institutionnelle. Mais honnêtement, aujourd'hui, C'est l'oracle. Hein.
Sauf que pour l'instant, tous les noms qu'on a évoqués pour la présidence de la Commission, il n'y a rien de sûr.
Non, mais c'est vrai. Donc, c'est pas impossible. Après, la question du Brexit dur, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Français, comme ils l'ont déjà dit, sont prêts à aller au Brexit dur en octobre, si jamais d'ici là, on n'a pas trouvé une autre solution. Je suis pas certaine pour l'instant que les positions des autres États membres, et en particulier de l'Allemagne, aient bougé sur ce point. Et ça fait quand même peur à pas mal de monde, cette option-là.
Thierry Chopin.
Je pense que c'est un argument de plus, en fait, cette affaire du Brexit, en faveur d'une nomination de Michel Barnier. C'est lui qui connaît le mieux ces questions-là. Et j'allais dire de deux choses l'une. C'est-à-dire, ou bien, et avec Boris Johnson, potentiel Premier ministre, futur Premier ministre britannique, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. L'alternative, c'est ratification du deal avant le 31 octobre.
Et auquel du cas, deal négocié par Theresa May.
Ouais, mais peu probable. Mais admettons que finalement, pas impossible. Il faut jamais insulter l'histoire.
Surtout avec Boris Johnson.
Surtout avec Boris Johnson. C'est comme l'une des personnalités politiques les plus imprévisibles que l'on connaisse au moins en Europe, sans parler du reste. Donc accord avant le 31 octobre, et là le prochain président de la Commission peut se consacrer finalement à son mandat qui ne débutera pas par finalement une gestion de crise. Par contre, autre branche de l'alternative, pas d'accord, un no deal, pas exclure non plus loin de là. À mon avis, c'est même le scénario le plus probable aujourd'hui si quelqu'un comme Boris Johnson, Brexiteur hard, devient Premier ministre. On peut s'engager là-dedans. Et là, ça ne dépend pas que des Européens. Ça sera aussi une décision britannique. Et là, ça veut dire que le prochain président de la Commission commencera sous des auspices son mandat très, très particulier.
Allez, en quelques mots très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, on avait choisi aujourd'hui de parler du futur et des futurs visages de l'Union européenne, mais si on regarde un tout petit peu en arrière, Juncker, comme président de la Commission, vous avez trouvé comment, Clémentine Forestier?
Il a démarré en disant que ce serait la commission de la dernière chance parce qu'on sortait de crise extrêmement grave d'un point de vue financier, crise de la zone euro, montée des populismes. Et il a eu en prime le Brexit et la crise des migrants. Bon, la Commission est toujours là, l'Europe est toujours là. Je pense qu'il a entamé son capital politique de façon extrêmement forte en 2016, au moment de la crise des migrants, où il y a eu un rapport de force qui s'est créé entre les pays de l'Est de l'Europe et le reste sur la question des quotas, et qu'après, il avait quasiment plus de marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit.
Thierry Chopin.
Oui, je dirais effectivement un mandat de crise, très très clairement, des chocs de souveraineté à plusieurs reprises qui sont survenus. Alors, rôle de la Commission, mais rôle aussi du Conseil européen de ce point de vue-là. Une dimension géopolitique très importante, le commerce, les GAFA et d'autres exemples encore. Et puis quand même, la question de l'affaire Sandmeier. Et donc, il faut espérer quand même que la prochaine Commission puisse être exemplaire de ce point de vue-là.
Alors, pourquoi cette musique? Eh bien, c'est Benjamin Huck qui l'a choisie parce qu'elle s'appelle European Echoes. Voilà, il est question d'Europe. C'est Ornette Coleman. Merci infiniment à tous nos invités. Clémentine Forestier, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du journal en ligne Contexte. Un grand merci également à vous, Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille et puis conseiller spécial également de l'Institut Jacques Delors. Un grand merci, cher Marc Sebo. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ça sera la dernière de la saison avant de se retrouver dès fin août. Je peux vous le confirmer d'ores et déjà. 11h50. 3 minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors vous, c'est une essayiste canadienne de 33 ans qui est en train de faire un malheur dans le monde intellectuel anglo-saxon dont vous nous parlez?
Oui, Claire Lehmann, c'est son nom, est la fondatrice et l'animatrice du site dont tout le monde parle, Quiet. Pour les uns, Quiet, c'est l'ultime rempart du rationalisme et de l'esprit des Lumières dans un monde universitaire en pleine dérive idéologique. Pour la féministe libertarienne Christina Hoff Summers, c'est, je cite, un îlot de raison dans un océan de folie. Le psychologue Steven Pinker, dont j'ai déjà parlé ici, y publie des articles et il parle de l'un des web magazines les plus originaux et les plus stimulants. Mais pour d'autres, c'est la nouvelle trouvaille de conservateurs qui se dissimulent derrière un pseudo-combat pour la liberté d'expression. Un lieu de convergence numérique d'intellectuels de droite qui avancent masqués. Mais ce qui énerve surtout chez Quiet, c'est cette façon de s'emparer des procédés rhétoriques de ce qu'on appelle la culture du grief, les grievance studies, dont ils accusent la gauche universitaire de s'être entichée. Quiet dénonce en effet en permanence les ravages que le politiquement correct ferait subir au département de sciences humaines des universités. Le site a donné un très large écho aux fameux hoaxes des trois compères, vous souvenez, Helen Pluckrose, James Lindsay et Peter Boghossian, dont il est proche. Vous savez, ces fameux articles complètement bidons et adoptant tous les poncifs des gender studies, queer studies, critical race studies et autres fat studies, ils sont parvenus à faire publier les trois compères dans des revues réputées savantes de pseudo-études sur des sujets aussi farfelus que, je cite, réactions humaines à la culture du viol et performativité queer au sein des parcs à chiens de Portland, Oregon. Ailleurs, ils ont publié un article dénonçant, je cite, le caractère intrinsèquement dangereux de l'intelligence artificielle programmée à partir de data masculinistes, impérialistes et rationalistes. Ou encore, un article entièrement composé de citations de Mein Kampf où les articles juifs avaient simplement été remplacés par blancs. Quiet, fondé en 2015, compte aujourd'hui plus de 150 000 abonnés sur Twitter. J'ai vérifié, pas mal pour un site qui ne publie que des articles relativement savants, toujours impeccablement écrits en anglais, hein, par des universitaires compétents dans leur domaine. Claire Lehmann a su donc créer l'événement La Preuve, The Chronicle of Higher Education, la référence en matière d'éducation supérieure dans le monde anglo-saxon, vient de lui consacrer un article, mon Dieu, pas si défavorable que ça.
Donc La Preuve brise que ce site est devenu une puissance intellectuelle.
Une autre, certains universitaires menacent dorénavant ceux de leurs collègues qui y collaborent. Ainsi, Kathia Thiem a publié sur Twitter « Si vous publiez sur Quiet, nous vous voyons putain, on vous regarde !» Et un professeur de philosophie de l'université du Nouveau-Mexique, Jeffrey Miller, a rétorqué « Votre panopticon fonctionne dans les deux sens, nous aussi, nous vous voyons !» Alors ce qu'attaque Quiet, ce n'est pas la pensée de gauche, mais c'est cette tendance de la pensée de gauche qui a rompu avec l'universalisme des Lumières et le rationalisme pour se mettre à la remorque des politiques de l'identité. Ce qu'un universitaire, contributeur lui-même régulier de Quiet, Galen Watts, appelle la « New Left ». Nous sommes nous aussi des gens de gauche engagés qui défendons le multiculturalisme et la justice sociale, écrit-il dans un article récemment mis en ligne sur le site Areo. Mais nous privilégions la discussion argumentée à l'invective. Nous pensons pouvoir convaincre les indécis de bonne foi avec des arguments. Et face aux conservateurs endurcis, eh ben, nous acceptons le dialogue et refusons le recours aux attaques ad hominem et à la calomnie. Et Galen Watts avance sa propre conception du débat intellectuel. La prise de distance ironique à laquelle recourt trop souvent sa New Left fait le jeu des conservateurs, dit-il. Ils ont pu ainsi s'emparer des thèmes de la raison et du progrès. Mais cette ironie systématique s'explique par des raisons de fond plus que par des raisons de forme, parce qu'elle est en phase avec le relativisme de ces déconstructivistes. En outre, elle se conjugue avec l'illusion de se croire moralement supérieure. Obsédé de radicalisme critique, je cite Galen Watts, la nouvelle gauche juge, corrige, réprimande les uns et les autres comme si chacun lui avait reconnu la légitimité pour ce faire. Eh bien, ce n'est pas le cas, mais son intolérance la rend très impopulaire. Enfin, il faut apprendre, dit-il, de ceux que nous désapprouvons. Spécialement dans l'époque que nous traversons, marquée par une intense polarisation politique. Et ce, pas seulement pour des raisons intellectuelles, mais aussi politiques, je le cite. Pour survivre, une société démocratique et pluraliste requiert un certain degré de compréhension mutuelle tout le long de l'axe des positions intellectuelles et donc un effort pour comprendre les positions de l'adversaire. Actuellement, je cite toujours Watts, le politiquement correct est devenu extrêmement impopulaire et malheureusement, on y associe la gauche tout entière. La gauche ne peut pas se contenter de lancer des anathèmes en refusant de débattre. Il faut passer d'une culture de la dénonciation à une politique de l'engagement. Adresse quiet.com.
Merci beaucoup Brice pour cette chronique. On peut retrouver sur le site de France Culture. C'est pas quiet.com, c'est franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.